c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait que...
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Onde Femmes Radio Zone. Et oui, la Pleine Lune recommence en direct. Comme vous avez pu le voir, j'ai tout oublié pendant l'été. Je n'ai pas arrêté de faire du foot technique, mais c'est bon. Il paraît que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Contente en tout cas d'être là. La Pleine Lune, elle n'est pas encore dans le ciel. Il fait jour, un peu de soleil quand même, presque. Mais en tout cas, la Lune, elle est dans vos oreilles sur 93.8 MHz. Tous les mercredis à partir de 18h30. Au programme, bien sûr, les informels, les nouvelles sur la pleine lune. Et puis, je vois Marjolaine qui pointe son nez et qui, dans quelques minutes, vous ouvrira son cœur pour son memento, ses coups de cœur. Qu'est-ce qu'il y a à voir, à faire, à visiter, à écouter. Et bien sûr, avec le Festival de la Bâtie, beaucoup de choses en perspective. Des interviews, des rencontres, des coups de cœur. Marjolaine, à 19h, vous ouvre son cœur. Mais dans quelques instants, c'est les informels, les nouvelles de la pleine lune. Et puis notre numéro de téléphone, c'est le 450 40 51 41 059 depuis la Suisse. À tout de suite, restez à l'écoute. Salut ma belle. Radio Pleine Lune 3.8 MHz, Centre Femme Radio Zone, nos nouvelles. Mardi matin à Genève, environ 50 policiers ont effectué une descente de police chez 5 personnes actives dans l'Action mondiale des peuples, dans le cadre d'une enquête pour trouver les responsables des casses qui ont eu lieu lors des manifestations du mois de mai. Je vous rappelle que ces manifestations, organisées par toute une série d'organisations, dont l'AMP, l'Action mondiale des peuples, pour protester contre la mondialisation du commerce et plus particulièrement contre l'Organisation mondiale du commerce à Genève qui célébrait ses 50 ans d'existence. 5 mois donc après les événements, les personnes appréhendées ont vu leur appartement fouillé, leur ordinateur et carnet d'adresses et papiers saisis et mis à disposition du juge. Ils ont été longuement interrogés sur non pas les violences ou les éventuels auteurs de violences, mais sur le mode d'organisation de l'Action mondiale des peuples et sur ses membres ses membres présumés. Pour la juge Christine Junot, qui a lancé les mandats, il s'agit d'une enquête de routine, rien à faire avec une intimidation politique ou une opération de fichage. Pourquoi alors avoir saisi les listes d'adresses et les ordinateurs ? Visiblement, la police refait son stock de fichage. La police ficheuse est morte, d'après elle-même, mais vive la police fouineuse. Au Mozambique, à Maputo, les féministes n'aiment pas beaucoup Machel Grassa, devenue la deuxième Madame Mandela. Mariée au président, Machel Grassa n'a guère agi en faveur des femmes. Elle a même fait voter une loi privant de leur nationalité les Mozambicaines qui épouseraient un étranger. Aujourd'hui, la voilà qui épouse elle-même un étranger et les féministes et les femmes qui ont subi cette discrimination se demandent aujourd'hui, est-ce que Madame Machel Grassa va perdre sa nationalité mozambicaine. La vie est en tout cas pleine de paradoxes, car si Graça Machel avait épousé Nelson Mandela avant 1990, année où le Mozambique a révisé sa constitution, elle aurait automatiquement perdu sa nationalité. Elle serait tombée dans son propre piège. Peu après l'accession à l'indépendance du Mozambique en 1975, Graça Machel s'adressait avec passion à l'Assemblée populaire pour défendre un projet de loi prévoyant que les femmes du pays, et uniquement les femmes, seraient déchues de leur nationalité si elles épousaient un étranger. Les Mozambicaines devaient être mises à l'abri des manigances des étrangers et, à ses yeux, l'homme étant le chef de famille incontesté, l'épouse finit toujours par tomber sur sa coupe. Une femme qui préférait témoigne ainsi. « Je vivais avec un Portugais sans être mariée. La police est venue chez nous. Au ministère de l'Agriculture où je travaillais, la hiérarchie faisait pression sur moi pour que je me marie. Mais je ne voulais pas perdre ma nationalité. Alors nous nous sommes accrochés et nous avons refusé de nous marier. » Certaines d'entre ces femmes ont perdu leur citoyenneté. Celles qui décidaient de ne pas épouser leur partenaire étaient doublement mal vues, parce qu'elles vivaient avec un étranger et parce qu'elles n'étaient pas mariées. Le concubinage, qu'il concerne les couples mozambicains ou mixtes, était condamné par le régime. Malgré ces idées progressistes, la révolution mozambicaine avait une tendance au puritanisme. Les mini-jupes, l'amour libre, l'égalité des sexes n'étaient pas à l'ordre du jour. Pour une féministe comme Teresina da Silva ou Liz Bernstein, coordinatrice de la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles à Maputo, il faut être très critique vis-à-vis de Graça Machel. Quand j'ai appris la nouvelle du mariage, je me suis dit « mince, adieu le modèle social ». C'était bien, ils n'étaient pas mariés, ils auraient dû le rester. Les militantes reprochent aussi à Graça Machel de ne pas avoir utilisé ses relations pour faire avancer la condition des femmes. Elle s'est toujours consacrée à des causes plus consensuelles en Afrique, comme la suppression des mines antipersonnelles et la protection des enfants pendant les conflits. Mais les femmes ont été oubliées. En Iran, le Parlement a voté un amendement qui interdit la publication dans la presse de photos offensantes et d'articles susceptibles d'attiser les contradictions entre hommes et femmes. Fin de citation. Cette loi vise avant tout les portraits de beauté occidentale en cheveux et les textes accordant trop d'importance aux droits de la femme. C'est la publication dans l'hebdomadaire iranien Fancourt des portraits des maîtresses présumées de Bill Clinton qui a déclenché la vindicte des conservateurs. Pour éviter de leur donner des arguments, le ministère de la Culture s'était empressé d'interdire la parution de ce numéro jugé scandaleux, mais il ne voulait pas d'une loi restrictive. Le Parlement, dominé par les conservateurs, ne l'a pas suivi. Honduras, depuis le mois d'août, un procès pour juger Christophe Colomb. Les Indiens du Honduras se sont effectivement réunis pour la deuxième partie du procès symbolique contre Christophe Colomb qui a commencé en juillet. Ils ont déclaré seraient présentées au cours de l'audience des preuves du génocide initié par Colomb avec la découverte de l'Amérique en 1492. L'explorateur est jugé pour séquestration, ethnocide, vol, viol, invasion, commerce d'esclaves, génocide, torture, assassinat, destruction, trafic d'espèces naturelles et pour avoir imposé une culture par la force. Selon l'Organisation des Indiens, les colonisateurs ont assassiné 70 millions d'autochtones sur le continent américain, le plus grand holocauste que l'humanité n'ait jamais connu. En France, les médecins radiologues prennent les femmes en otage. Pour protester contre des mesures d'économie décidées par Martine Aubry, ils ont décidé d'interrompre le dépistage du cancer du sein. C'est dans la guérilla sur les dépenses maladies qui donc oppose Martine Aubry et les radiologues. Tous les cours sont donc permis, même ceux contraires à la déontologie. La Fédération des médecins radiologues a annoncé la suspension de sa participation sans délai à toutes les campagnes de dépistage du cancer du sein en cours. La décision de s'en prendre à un programme de santé publique adopté à l'unanimité par le conseil administratif du syndicat est annoncée et constitue la ligne de défense de la profession face aux mesures d'économie demandées par le ministre de la Solidarité pour endiguer les dérapages des dépenses maladie. Les radiologues n'y sont donc pas allés avec le dos de la cuillère. Vous dites que nous faisons une prise d'otage. On peut dire la même chose de l'État. Il est nécessaire pour nous de prendre des mesures assez fortes. De toute façon, à titre individuel, les femmes peuvent toujours aller se faire une mammographie. Les campagnes de dépistage ont été mises en place progressivement en France depuis une dizaine d'années pour prévenir ce qui reste la première cause de mortalité des femmes. Gageons qu'il n'y a pas beaucoup de femmes radiologues. Toujours en France, bientôt une loi sera prête pour les concubins, qu'ils soient homosexuels ou non. Le pacte d'action, d'alliance civile va bientôt être discuté. Et cela malgré des fortes oppositions venant des milieux catholiques conservateurs qui sont partis en croisade contre ce qu'ils appellent le mariage homosexuel. Mais la rentrée parlementaire examinera quand même très prochainement le projet de loi régissant un ensemble de droits et d'obligations pour les couples non mariés, homosexuels ou non. Plusieurs milliers de mères ont donc signé une pétition pour dire leur opposition à tout contrat d'union entre personnes du même sexe. À l'origine de cette mobilisation, les associations familiales de la droite, pour ne pas dire de l'ultra-droite traditionnelle, qui voit dans ce projet un véritable imposture qui embrôlera tous les fondements de notre société. Un mariage bis qui attribue aux personnes homosexuelles les mêmes droits que pour les hétéros. Quelle horreur! En fait, à l'examen des dispositions qu'il comporte, le PAC, comme on l'appelle, apparaît bien éloigné du fantasmatique mariage homo dénoncé par les détracteurs. Les législateurs sont partis d'un constat simple. Près de 5 millions de Français vivent aujourd'hui en union libre. 40% des enfants naissent de couples non mariés. Et le scandale, estiment les personnes qui ont participé au rapport sur cette question, c'est que ces familles n'ont pas vraiment de droit face au droit social et successoral qui, lui, n'a pas changé. Pour adapter la loi, le droit privé à l'évolution de la société, les experts du Parti socialiste ont prévu que les contractants du PAC, qu'ils soient ou non du même sexe, deviennent solidaires de leurs dettes, établissent des déclarations d'impôts communes et se doivent soutien matériel et moral à condition d'avoir toit partagé et lit partagé. Excusez-moi. En Suisse, le Conseil fédéral a décidé, ou plutôt n'a pas décidé, l'avortement sera libre, mais pas tout à fait libre. C'est la proposition du Parti démocrate chrétien qui a été retenue comme la plus intéressante par le Conseil fédéral, qui, face à l'initiative des délais qui libéralise l'avortement au cours des 12 premières semaines, propose une libéralisation, mais avec un avis du médecin. Les femmes qui voudront avorter devront donc passer devant un médecin. Alors, la question se pose, qu'à quoi servira ce médecin? Aujourd'hui, il faut, pour pouvoir avorter, un avis conforme qui est en général délivré par un médecin qui atteste d'une grande souffrance sociale, morale ou d'une souffrance physique qui justifie l'intervention de l'interruption volontaire de grossesse. Le médecin a aujourd'hui donc la capacité de dire si face à la situation physique et sociale de la femme, c'est l'avortement qui doit être préconisé. Au moment où l'avortement serait libre par la loi, on ne comprend pas très bien quelle serait alors la situation et la position du médecin. On imagine qu'il serait là uniquement pour faire la morale. Bravo le Conseil fédéral, encore une fois, du côté des femmes. Exposition dans les rues de Lausanne où du 5 au 28 septembre, des 21 femmes artistes présenteront leur œuvre dans les vitrines des commerçants de ce quartier cher à Lausanne. publication vient de sortir. Les éditions de Maman les Mélisses viennent d'éditer leur dernier ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage d'une auteure américaine, noire américaine, Audrey Lorde, qui ouvrage que l'éditrice Rina Nissim nous a présenté ce matin, et nous allons l'entendre tout de suite. Rina Nissim nous parle de sa joie de enfin pouvoir nous livrer en français la magnifique prose d'Audrey Lorde, une poétesse, une écrivaine nord-américaine, malheureusement décédée des suites de son cancer. Et c'est justement de son cancer que nous parle ce livre, Journal d'un cancer. Écoutons Rina Nissim nous parler de son œuvre.
Ses amis, son autobiographie et le journal du cancer suivi de Un souffle de lumière, qui est son journal qu'elle a écrit à l'époque de son cancer du sein, avec les suites et les difficultés qu'elle a eues, qui est donc en anglais, qui est paru en deux ouvrages séparés et qui en français est regroupé en un ouvrage. Donc ces deux ouvrages sortent maintenant en septembre, en même temps au Québec et ici en Suisse, donc en Europe francophone. Et c'est vraiment un salut, disons, à son œuvre. C'est une femme très engagée qui avait la particularité d'être engagée sur plusieurs fronts à la fois, c'est-à-dire qu'elle était à la fois engagée dans le mouvement noir, dans le mouvement des femmes, dans le mouvement lesbien, ce qui lui a valu d'ailleurs des difficultés, parce qu'elle était toujours perçue par les uns ou par les autres comme comme étant un peu traîtresse. Par exemple, dans le mouvement noir, c'était pas toujours bien vu d'être à la fois engagée d'une façon très importante dans le mouvement féministe. Donc c'est une femme qui, dans son autobiographie comme dans son journal, partage en même temps tout son engagement, enfin sa force de vivre. Et c'est vraiment toujours écrit d'une manière quand même très poétique, parce qu'avant tout, c'est quand même une poète. Mais c'est quand même, avec Adrienne Rich, une des femmes américaines qui a le plus inspiré le mouvement féministe pour ce qui est des femmes aux États-Unis du Nord. C'est vraiment une œuvre fascinante, et je suis très contente de pouvoir enfin la partager avec les femmes françaises qui ne lisent pas forcément l'anglais. Et j'espère pouvoir continuer avec les éditions 3 à publier prochainement des essais et peut-être même de la poésie.
Alors c'est un livre qui parle du cancer, de son cancer, le cancer qui l'a emporté finalement. Est-ce que c'est un choix de publier en premier un livre d'une militante, mais qui parle de sa maladie ?
Mes éditions sont quand même des éditions sur la santé des femmes. Mes trois premiers ouvrages, c'est Maman Mélisse, Le trèfle de vie, La ménopause. Donc c'est mon engagement personnel, c'est quand même la santé des femmes. Donc je pensais que c'était un bon lien quelque part pour rentrer dans une partie plus littéraire de son œuvre, de commencer par son journal du cancer. Et de cette manière, mettre un peu un pied dans la partie plus littéraire de son œuvre.
Est-ce que vous pensez que ce témoignage peut aussi participer, apporter quelque chose par rapport à des femmes qui malades, qui souffrent aussi de cette maladie, pour les aider à faire ce cheminement ?
Alors, ce qu'il y a justement d'intéressant dans son ouvrage, c'est qu'elle parle, et en effet, aujourd'hui, dans la problématique du cancer du sein, les femmes sont plutôt isolées. Elles portent, par exemple, une prothèse. Elles ne peuvent pas se reconnaître l'une l'autre quand elles se croisent dans la rue. Elles ont l'impression qu'elles sont peut-être les seules à devoir cacher cette opération, dans le cas où c'était une ablation complète. Et justement, ce que Audrey partage, c'est toutes ses réactions par rapport à cela. Et je pense que, comme avec la ménopause, dans une certaine mesure, le fait même de commencer à parler, de oser parler ouvertement de ce qu'on a vécu, c'est déjà une manière de rompre l'isolement. C'est un premier pas quand même assez essentiel par rapport à une prise de confiance dans ce qui nous arrive.
En même temps que vous sortez ce livre, vous organisez un événement avec un film qui parle sur Audrey Lorde aussi.
Alors, c'est un film qui s'appelle A Litany for Survival. C'est un film sur Audrey Lorde qui dure 1h30, qui sera projeté donc à Fonction Cinéma mardi 15 septembre et que je présenterai également en France, dans différentes villes, Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, etc., dans le cadre donc, du lancement de ses œuvres en français. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est justement toute la rétrospective un peu de sa vie, c'est-à-dire elle est née à Harlem, elle a connu quand même le racisme profond de cette époque, de se faire jeter d'un magasin de glace à Washington, D.C., la mort de Martin Luther King. C'est une rétrospective qui est à la fois une rétrospective de sa vie, de ses engagements, mais en même temps quand même de toute une époque. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un véritable documentaire, ce film. Et pour les personnes qui s'intéressent un peu aux États-Unis et à la cause noire, à la cause des femmes, je pense que c'est vraiment un film à ne pas manquer.
Donc ce livre, c'est Journal du cancer suivi d'un souffle de lumière, Audrey Lorde, publié aux éditions Mama Mélis, qui seront, je pense, à partir d'aujourd'hui dans toutes les grandes librairies. Sinon, rendez-vous 15 septembre, donc à Fonction Cinéma, pour voir ce documentaire. Un autre livre vient également de sortir. C'est un livre sur un bilan portofolio des compétences, histoire d'une pratique. C'est les femmes de l'espace de femmes pour la formation et l'emploi, un groupe de Bienne, qui nous font part de leur pratique sur le bilan de compétences et les histoires de vie qu'elles ont effectuées, partagées avec des dizaines de femmes chômeuses ou qui veulent reprendre du travail ou femmes en difficulté qui ont passé avec qui elles ont fait ce bout de chemin. C'est un livre qui sort aux éditions d'en bas. Encore au niveau des nouvelles, on apprend que chez Novartis, des tests sur le cancer ont été falsifiés. Un chef préparateur du groupe pharmaceutique Novartis a falsifié des résultats de tests dans le domaine de la recherche contre le cancer. C'est ce qu'a reconnu le président du groupe. Et on espère on se demande si c'est sur la base de ce genre de résultats que Novartis a basé sa campagne pour le génie génétique. Et pour terminer ces nouvelles, et commencer notre année, si on veut dire notre nouvelle, l'automne plutôt, un chapeau du cochon. Et oui, savez-vous que cette année, le Front National en France a basé ses cours de l'université d'été, entre autres, sur les méfaits du féminisme. Et on a pu entendre Marie-France Stirbois qui reçoit le chapeau de la cochonne. Marie-France Stirbois, députée européenne du Front National, dire devant les militantes du Front National réunies, qu'elle était contre les hommes, tout contre, dans un plaidoyer contre le féminisme, qui est à ses yeux une idéologie sectaire. Elle a dénoncé le fait que le MLF fait du prosélytisme lesbianique. Elle s'est écriée « Je n'ai pas envie de devenir lesbienne ». Eh bien, nous aussi, on n'a absolument pas envie. Qui sait, on risquerait de pouvoir la draguer. Quelques rendez-vous pour terminer. Je vous rappelle donc la conférence le film sur Audrey Lorde le 15 septembre à 20h30 à Fonction Cinéma, film donc sur cette écrivaine noire américaine, féministe Audrey Lorde qui comme Rina Nissim nous l'a présenté, est à la fois un témoignage sur elle mais un témoignage aussi sur toute cette époque. Vous rappelez que vous pouvez encore courir, c'est peut-être un peu tard mais qui sait, au Rassemblement des Femmes en Noir qui tous les premiers régulièrement chaque deux mercredis par mois se réunit en solidarité avec les femmes réfugiées de Bosnie et de Kosovo et on propose de s'habiller en noir ou en tout cas d'avoir un bout de vêtement noir. Ces réunions ont lieu à la Fontaine de l'Escalade en bas de la rue Calvin à 18h, peut-être c'est fini mais allez voir encore. Sinon, ce soir, 9 septembre, de 20h à 22h, un groupe de discussion sur le thème Être femme au quotidien. C'est le centre de loisirs de Schönbourg qui vous invite à rejoindre, comme chaque premier mercredi de chaque mois, avec un repas, un endroit convivial et une discussion. réunion aussi, autre thème de discussion un peu difficile, mais ça nous arrive, c'est dans notre réalité, le 15 septembre, sur le thème des parents qui vieillissent, c'est à 18h et c'est organisé par Prosénectute. Ça se passe d'ailleurs dans leur lieu, à 4 rue de la Maladière, c'est dans le quartier de la Jonction. Et puis vous rappelez bien sûr que le 27 septembre, il faut aller voter, oui, pour l'initiative de rattrapage sur la retraite. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, et je vous laisse en compagnie de Marjolaine, qui prépare ses piles et vous ouvrira son cœur. À bientôt.
Viens-moi.